Le monde arabe, le monde musulman, l'islam sont au cœur de l'actualité depuis quelques semaines, on le sait, et ça vous a inspiré, Yves Gingras, comme historien des sciences, inspiré le sujet d'aujourd'hui qui est de nous raconter une époque où le monde arabo-musulman dominait réellement la science mondiale au fond. Cette époque-là, c'était vers le 9e, ça a commencé vers le 9e siècle à peu près. Situez-nous d'abord cette époque vraiment d'hégémonie de la science arabe.
Oui, on a tendance à oublier le fait qu'effectivement, on pense toujours qu'on vient du monde grec. Hein, on dit que la science du 17e siècle, au fond, ses origines sont grecques. On devrait dire qu'au fond, les origines de notre science sont gréco-arabes. Pour la raison suivante, le centre de la science grecque, 600 ans avant Jésus-Christ, du 6e au 4e siècle, c'était bien sûr Athènes. Ensuite, il y a un déplacement géographique vers l'Égypte, c'était à Alexandrie.
Oui.
Bien sûr, on ne refera pas l'histoire du monde, mais après le déclin d'Alexandrie, toutes les invasions barbares, etc., allons vite. À partir du 6e siècle, le monde Europe du Nord, le monde chrétien, c'est un déclin de civilisation qu'on va appeler, disons, l'âge noir, là, entre 500 et 1000 environ. Mm-hmm. Mais pendant ce temps, bien qu'il soit vrai que dans le monde européen du Nord, le monde chrétien en général, le niveau scientifique avait été atteint de très haut niveau par les Grecs, on pense à Aristote, on pense à Archimède, ce savoir-là se déplace dans le monde arabe. Comment? D'abord, bien sûr, quand on parle du monde arabe, on doit rappeler une date importante qui est 622, qui est l'année de l'Hégire, donc de la migration du prophète Mahomet, qui correspond à une nouvelle datation. Donc, dans le monde musulman, on compte les années à partir de l'an 1, qui est l'an 622. Et là, rapidement, pendant un demi-siècle, en gros, disons de 630 à 670, il y a une conquête rapide du monde arabe dans leur entourage, ce qui fait qu'après un siècle environ, le monde arabo-musulman couvre la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Égypte et l'Espagne. Et là, va se développer 8e, 9e siècle, des grands centres scientifiques, dont le plus important à partir du 8e siècle est Bagdad. À partir du 10e et du 11e siècle, Cordoue et Tolède en Espagne vont être là aussi des grands centres de recherche scientifique arabe.
Et on est commence une sorte d'âge d'or de la science arabe.
On peut effectivement parler d'un âge d'or de la science arabe entre le 9e et le 12e siècle. Quel est le processus? Tout d'abord, c'est un processus d'assimilation du savoir grec par traduction. Donc, à partir en gros de 700-800, on traduit les grands ouvrages grecs du grec à l'arabe. Et l'arabe se constitue donc au travail des traducteurs comme une langue scientifique. Et là, ensuite, cette première assimilation faite, se fait des développements plus originaux, qu'on pense en optique, les travaux de Al-Kindi, qui vont mettre à jour l'optique grecque et la faire avancer énormément, de sorte qu'au 13e siècle, lorsqu'on va la redécouvrir dans le monde chrétien, on va découvrir qu'au fond, les Arabes, ils sont très avancés. En mathématiques aussi, il y a des grands mathématiciens qui vont développer au 12e et 13e siècle la science de l'algèbre, un point équivalent à celui qu'on va attribuer dans le monde occidental à Descartes. Donc, la science arabe, on ne peut pas aller dans tous les domaines, mais les grands noms qui vont, eux, être connus dans le monde occidental sont surtout Averroès, qui est un grand commentateur d'Aristote, qui va être traduit en latin et qui va devenir, pour le monde européen, à partir de l'an 1200, jusque même jusqu'au 17e siècle, une des principales sources de la réflexion autour des œuvres de Aristote. En médecine, le grand canon de médecine de Avicenne va être également traduit en latin. Donc, on voit qu'on pourrait nommer une vingtaine, 20-25 grands savants arabes qui ont fait des contributions techniques très avancées en astronomie. Par exemple, si on regardait techniquement le traité de Copernic, qui paraît en 1543, on verrait que les techniques mathématiques pour faire le modèle du comportement de Vénus viennent directement des travaux des astronomes arabes du 12e et du 13e siècle.
On va avoir un héritage effectivement important donc de cette science-là. Mais alors donc, vous dites âge d'or là du 9e, 12e, 13e siècle. Et manifestement, cet âge d'or-là va être suivi par un âge, je dirais pas de plomb, mais, où ça va se gâter un peu, où ça va se...
Là, on tombe dans la partie plus complexe. Effectivement, il y a un essoufflement, et la cause des essoufflements est toujours compliquée. En général, les historiens débattent beaucoup sur les causes, parce que c'est très difficile de préciser ça. C'est pas comme une table de billard où la cause de la boule blanche ou la boule rouge est assez évidente. Mais on peut joindre des causes internes et des causes externes. Bien sûr, à partir du début du 12e siècle, on a d'abord les croisades, on a donc des reconquêtes dans les pays chrétiens des espaces de l'Espagne. On pense à Tolède. Et donc, ces grandes villes intellectuelles-là vont redevenir chrétiennes, ce qui va d'ailleurs permettre la retraduction de l'arabe vers le latin. Et là, on va rester au phénomène inverse. C'est le latin qui, lentement, au cours de deux siècles, va se constituer comme langue scientifique. Et aujourd'hui, notre héritage scientifique contient beaucoup de termes qu'on oublie souvent, dont l'origine est effectivement arabe, qu'on pense à l'alchimie. Alchimie, au fond, c'est de la chimie, parce que les Arabes ont enseigné beaucoup, on pense au cornu, à toutes les techniques de distillation, il y a beaucoup de traités arabes. On pense à alcool, qui vient d'alcool. On pense à algèbre.
Algèbre,
qui vient d'algèbre, d'un traité d'un savant arabe, Al-Khwarizmi. On va donc assimiler, dans le monde chrétien, la science arabe. Mais la grande différence, si on avait à en nommer une, je pense qu'elle est une science institutionnelle. La grande nouveauté institutionnelle du Moyen-Âge chrétien, c'est la création des universités, c'est la création de corporations relativement autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'université, bien qu'elle était comprise, bien sûr, avec certaines condamnations de l'Église
évidemment,
catholique,
oui.
Avait une forme corporative qui lui permettait d'être relativement autonome malgré les condamnations de l'évêque Templier, par exemple, en 1977, disait l'université de ne pas enseigner Aristote, qui était le grand savant de l'époque, et qu'on enseignait d'ailleurs à travers des traductions, des commentaires de Averroès. Non, mais la relative autonomie permettait de dans le monde arabe, cette distance relative entre la foi et la science,
entre la religion et l'université, au fond, et le savoir,
n'était pas présent. Il n'y avait pas institutionnalisation d'une distance qui permettait aux savants. Par exemple, un grand savant comme Averroès a été, de son vivant, persécuté par une frange fondamentaliste qui le trouvait trop rationaliste. Je vous conseille d'aller louer le film Le Destin, qui nous présente une biographie du philosophe arabe Averroès et des démêlés qu'il y a avec les gens qui ont une vision moins rationaliste.
Donc, que lui, que pour expliquer ce déclin qui va y avoir de la science arabe à partir du 12e, 13e, 14e siècle, là, il y a bien sûr peut-être des causes externes, mais ce sont des causes internes qui semblent importantes. Et une de ces causes-là, c'est que il n'y a pas eu de division ou de séparation ou d'autonomie de la science par rapport à la religion.
Oui, et pour terminer, pour ne pas qu'on pense que c'est une vision qui ne serait qu'une vue qu'on dit soi-disant occidentale, je vous rappelle qu'un prix Nobel, un des rares prix Nobel de physique musulman, Abdus Salam, le prix Nobel de physique en 1979, écrivait en 1985 environ que aujourd'hui, malheureusement, de toutes les civilisations de la planète, la science est le plus faiblement développée dans les pays musulmans. Et bien que lui-même était de foi musulmane, il déplorait la tendance à trop vouloir mettre ensemble la science avec la religion, comme au fond le monde catholique le fait au XVIIe siècle.
Avec
l'ami Galilée, c'est parce qu'on n'avait pas réussi à l'époque à séparer la science de la religion. Et je dirais que le travail qui doit se faire aujourd'hui dans le monde musulman est d'en arriver à une conception de la religion qui laisse une place d'autonomie relative à la science, comme ça s'est fait dans le monde chrétien entre le XVIIe et le XIXe siècle.
Yves Gingras, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.